La notion de théologie liturgique, fréquemment employée par les liturgistes contemporains et parfois critiquée par certains, fit son apparition au XXe siècle. Jusque-là, l'étude de la liturgie était souvent reléguée au domaine pratique, à l'étude du rituel dans le cadre de la formation des futurs clercs. Il n'avait véritablement de place dans le domaine purement théologique. Dans le monde orthodoxe, nous sommes en grande partie redevables au père Cyprien Kern d'avoir promu l'aspect théologique dans les études de la liturgie en défendant la notion de théologie liturgique. Son disciple, le père Alexandre Schmemann, poursuivit les pas de son maître. Et c'est sans doute pourquoi il dédia sa thèse doctorale, Introduction à la théologie liturgique, à sa mémoire. Ayant fait l'état des lieux de la science liturgique au début du XXe siècle, le but de notre étude est de montrer la contribution qu'ont apporté les pères Cyprien Kern et Alexandre Schmemann à la définition et à l'élaboration de la méthode de la liturgie, de la théologie liturgique. Bien que tenant compte de leur source d'inspiration, nous verrons combien leur apport illustre admirablement une relation de maître à disciple. L'état des études liturgiques au début du XXe siècle. Si la notion de théologie liturgique va de soi au début du XXIe siècle, cela n'était pas encore le cas au début du XXe siècle. Dans la plupart des manuels de liturgie, la science liturgique est définie comme l'étude de l'ordo de l'office divin de l'Église orthodoxe. Il s'agit de l'approche ritualistique ou rubriciste, développée comme une étude du système liturgique en vigueur de nos jours dans l'Église. Cette approche s'intéresse avant tout au typikon, au ordo, dans sa rédaction actuelle, sans se préoccuper de ses origines, de son développement historique, ni de ses différents types ou familles. Le but de cette étude est de former des liturges, clercs et chantres, capables de célébrer les offices conformément aux règles établies. Cette approche allait de pair avec une approche purement ritualiste de l'office, d'une manière générale, lorsque celui-ci était souvent célébré sans aucune intelligence ni connaissance, ayant perdu tout son sens théologique, alors que l'iconographie et les chants liturgiques avaient perdu leur spécificité propre au détriment d'un art purement humaniste. Au XIXe siècle, l'école liturgique russe s'intéressera à l'aspect historique. Elle se développera autour du professeur Dmitrievski, surnommé le Gouard russe, suivi par ses nombreux disciples, dont Skabalanovitch, Lysitsyn, Kekelits et Karabinov. Les professeurs Katansky et Mansvetov en auront été les précurseurs. Cette école s'intéressa de l'aspect historico-archéologique. Ici, l'étude de la liturgie évolue du simple apprentissage de l'ordo à une véritable science. Mais celle-ci reste davantage rattachée à l'archéologie ecclésiastique qu'à la théologie. L'historien Glubokowski disait au sujet du professeur Mansvetov qu'il fut le principal réformateur des études liturgiques et devint pratiquement le fondateur de son existence en tant que véritable science. Le but de cette approche est de présenter le développement et les changements de la liturgie au cours de l'histoire, en s'intéressant particulièrement à l'apparition et aux transformations de ces divers éléments. L'étude des manuscrits et des différents témoins historiques s'avère dès lors indispensable. Cette étude historico-archéologique sera à l'origine d'un renouveau liturgique qui se manifestera, pour ce qui est de l'Église russe, lors du Concile de Moscou de 1917-18. La notion de théologie liturgique chez le père Cyprien Kern. C'est à ces deux approches que le père Cyprien ajouta dans son cours de liturgique à l'Institut Saint-Serge une troisième, théologique, qu'il définira de la façon suivante. La troisième approche, théologique, considère la science liturgique non seulement comme une matière historique ou une étude archéologique, et non seulement comme un ensemble de règles pour la célébration de l'office selon l'esprit et la lettre du typikon, ordo ecclésiastique, mais principalement comme une discipline théologique, comme une source de connaissance de Dieu et comme un moyen pouvant aider à l'élaboration d'un système théologique orthodoxe. Le père Cyprien estime que la théologie liturgique, en tant que discipline indépendante, a le droit d'exister parallèlement avec les autres matières de théologie systématique et historique, et qu'elle est étroitement liée avec la patrologie. Selon lui, la patrologie, l'histoire du dogme chrétien, s'intéressant à l'étude du développement de la pensée théologique chrétienne chez différents écrivains et docteurs de l'Église à différentes époques, ne doit pas être isolée de la théologie liturgique. L'étude des hymnes liturgiques, de leur apparition, leur développement et contenu complète, l'étude des œuvres théologiques des saints pères de l'Église. Comme il le rappelle, plusieurs pères de l'Église ne sont pas seulement les auteurs de traités théologiques, mais sont aussi à l'origine d'un matériau hymnographique, dont la richesse avait déjà été soulignée par un cardinal Pitrin. L'étude de l'hymnographie vient ainsi compléter notre connaissance de l'histoire et du système de la théologie byzantine. Ainsi, il ne faut pas limiter, disait-il, l'étude des œuvres patristiques au seul traité théologique écrit en prose, mais il faut se tourner également vers la poésie ecclésiastique, l'iconographie, la symbolique et d'une manière générale vers la liturgie. Le père Cyprien avait attiré l'attention du public sur la notion de théologie liturgique dès 1924. Alors qu'il était encore étudiant à Belgrade, âgé de 25 ans, dans un article intitulé « Les listes de prières » et publié dans la revue des étudiants de théologie de l'Université de Belgrade, puis repris dans un recueil portant le même nom, publié en 1928 et dont le sous-titre était « Recueil d'articles de théologie liturgique ». Plus tard, l'éminent savant sera très critique vis-à-vis de ses écrits de jeunesse, qui laissent transparaître son esthéticisme et son romantisme, mais qui eurent le mérite de poser les principes de sa pensée profonde lorsqu'il affirmait « Ils ont raison, nos théologiens, qui affirment la nécessité de travailler notre théologie liturgique, c'est-à-dire la systématisation des idées théologiques de notre liturgie. » Les inspirateurs de théologie liturgique du père Cyprien Kern. Ses écrits de jeunesse furent principalement inspirés par l'évêque Gabriel Tchepour, qui exercera avec le métropolite Antoine Chrapowitzki une influence indéniable sur le jeune théologien. C'est l'évêque Gabriel Tchepour qui établit le lien entre le père Cyprien et l'école liturgique russe, et plus particulièrement Skabalanovitch. Ce dernier, comme d'ailleurs l'évêque Gabriel, qui avait consacré son mémoire de fin d'études au typikon de la grande église de Constantinople, furent les disciples du professeur Dimitrievski à l'Académie théologique de Kiev. C'est à Belgrade, alors jeune étudiant de théologie, que le père Cyprien fit connaissance de l'évêque Gabriel, fin connaisseur du typicon qui le marqua par sa profonde connaissance et compréhension des textes immunographiques qu'il pouvait citer par cœur dans ses prédications remarquables. Contrairement à un Orfanitsky, qui ne concevait pas au début du XXe siècle que l'on puisse faire référence et citer les textes liturgiques dans un travail universitaire, ou encore à un archevêque Anastas Grybanowski, qui était méfiant vis-à-vis d'une théologie liturgique, Père Cyprien dit avoir été inspiré à commencer l'élaboration de la théologie liturgique par le métropolite Antoine Krapowitzki, l'évêque Gabriel Tchipour, le père Paul Florensky et le père Serge Bulgakov. Il considérait toutefois Skabalanovic comme le pionnier de cette matière. À ces grandes figures de la pensée théologique russe au XXe siècle viendront s'ajouter par la suite des savants occidentaux, tels Dom Prosper Guéringer de Solesmes, ou encore les travaux des monastères de Grotta Ferrata ou Maretsu et du mouvement liturgique avec lequel Père Cyprien se familiarisa de son arrivée à Paris. Principe de méthode en théologie liturgique du Père Cyprien Kern. Si, aux yeux du Père Cyprien, le but de la théologie liturgique est de systématiser les idées théologiques contenues dans l'office divin, l'hymnographie, les compositions iconographiques, le déroulement des fêtes, des sacrements, et de manière générale dans tout le matériau liturgique de l'Église, pour ce faire, la théologie liturgique en tant que discipline se doit d'avoir une méthode. Selon lui, la théologie liturgique doit être étudiée dans une perspective historique, en prêtant une attention particulière sur le développement constant et la transformation de tel ou tel rite ou de telle ou telle fête. On reconnaît ici l'influence qu'exerça celui de l'école liturgique russe et des études monumentales liturgico-archéologiques. Si nous sommes pauvres jusqu'à présent en cours systématiques, avouait-il, nous sommes cependant riches dans le domaine de grandes études liturgiques. On y reconnaît également l'influence de la méthode employée dans le dictionnaire de l'archéologie chrétienne et de liturgie par ses rédacteurs et principaux collaborateurs, Ducien, Cabriol, Leclerc, Salaville et autres que Père Cyprien avait en haute estime. Mais la théologie liturgique doit aussi tenir compte de la liturgie comparée, c'est-à-dire de l'étude comparative du rite byzantin avec d'autres rites, romains, arméniens, coptes, nestoriens, etc. Élaboré par le liturgiste allemand à Baumstark, cette méthode avait déjà été employée par le liturgiste russe Skabalanovic dans la rédaction de ses livrets sur les fêtes chrétiennes. Précieuse sur le plan historico-archéologique, elle peut s'avérer également indispensable sur le plan de l'interprétation théologique. Selon le père Cyprien, l'étude du matériau liturgique contenu dans l'horloge, l'octoèque, les meuniers, le triode, le pentecostaire et les autres livres liturgiques doit être confrontée et interprétée à l'aide des œuvres patristiques, des textes de liturgie ancienne, des textes hagiographiques et de l'iconographie ancienne. L'herméneutique des textes liturgiques ne peut se faire qu'à l'aide des autres textes ecclésiastiques. Et inversement, les textes liturgiques peuvent servir à l'herméneutique des textes sacrés. Ainsi, les textes hymnographiques peuvent être éclairés par des homélies patristiques ou les récits hagiographiques qui ont certainement servi de source aux hymnographes et dont l'ordre prescrit parfois la lecture à l'office en tant que lecture édifiante. Cette relation étroite entre la théologie liturgique et la patrologie, que le père Cyprien a souligné, nous permet d'ajouter à la liste de textes à considérer des apocryphes qui ont joué un rôle indéniable à la formation de l'hymnographie et de l'iconographie. De ce fait, les compositions iconographiques sont en état de symbiose avec les compositions liturgiques et peuvent donc s'éclairer mutuellement. Enfin, la théologie liturgique ne peut faire l'économie d'une étude philologique. En travaillant avec des traductions ou des versions de textes liturgiques, le liturgiste se doit en tout temps de les confronter avec l'original grec pour en vérifier l'exactitude de la traduction. Employé par le liturgiste russe Dimitrievski, qui aimait comparer les manuscrits liturgiques entre eux, ainsi que Skabalanovic, que dans les notes de ses livrets sur les fêtes chrétiennes, attire l'attention du lecteur sur le sens de tel ou tel mot grec. L'étude philologique peut s'avérer déterminante pour l'interprétation théologique, dans le cas où la traduction présente une interprétation ou une réduction du sens original, ou encore le cas où la traduction a malencontreusement modifié le sens original. Déjà dans ses articles de jeunesse, repris dans le recueil La liste de prières, le père Cyprien attirait l'attention de ses lecteurs sur le sens original des termes grecs, dont la traduction slavone est parfois approximative ou réductrice. Il faut dire que père Cyprien connaissait parfaitement le grec et adorait confronter les textes liturgiques en slavone à l'original grec. Pour la célébration des offices liturgiques, il confesse avoir toujours utilisé un hieratikon grec. La notion de théologie liturgique chez le père Alexandre Schmemann. Le père Alexandre Schmemann, disciple et fils spirituel du père Cyprien, fut sans aucun doute celui qui a le plus contribué à propager la notion de théologie liturgique. C'est en effet à son maître qu'il dédiera sa thèse doctorale, soutenue à l'Institut Saint-Serge et consacrée à une introduction à la théologie liturgique. Publiée en russe en 1961, cette étude, qui se voulait être l'élaboration d'une méthode de théologie liturgique, propagea la notion de théologie liturgique bien au-delà du monde orthodoxe. Schmemann restait particulièrement attaché à l'aspect didactique de la liturgie. Fut peut-être le plus grand vulgarisateur de la théologie liturgique au XXe siècle. Mais il contribua aussi à en élaborer le concept et à en forger la méthode. Suivant les pas de son maître, Alexandre Schmemann esquissa les jalons de la théologie liturgique de l'Église orthodoxe. Dans son livre « Introduction à la théologie liturgique », il donne la définition suivante de la théologie liturgique. La théologie liturgique consiste à élucider le sens de l'office. Ce sens est beaucoup plus profond qu'une explication symbolique, superficielle et arbitraire que la liturgie byzantine a connue, surtout après le XVe siècle, et qui a été souvent critiquée par le père Alexandre. Pour lui, la tâche de la théologie liturgique est de donner une base théologique à l'explication de l'office et de toute la tradition liturgique de l'Église. Ceci sous-entend trois choses de son point de vue. Premièrement, la théologie liturgique doit trouver et définir les concepts et les catégories pouvant exprimer la nature essentielle de l'expérience liturgique de l'Église. Deuxièmement, elle doit relier ces notions aux concepts utilisés dans la théologie pour exprimer la foi et la doctrine de l'Église. Enfin, troisièmement, elle doit présenter l'information transmise par l'expérience liturgique comme un tout. La règle de prière, lex orandi, qui détermine la règle de foi, lex credendi, de l'Église. Le but ultime de la théologie liturgique est donc, pour Schmemann, de clarifier et d'expliquer le lien qui unit la liturgie et l'Église, et de montrer comment l'Église s'exprime et se réalise à travers l'action liturgique. Ici, nous pouvons dire que le disciple fait un pas de plus que son maître. Si ce dernier concevait la liturgie liturgique comme une présentation systématique du dogme contenu dans l'eucologie et l'hymnographie, le disciple avait la conviction profonde que la théologie liturgique devait expliquer le lien qui existe entre l'Église, corps mystique du Christ, et la célébration liturgique. Le point de départ du père Alexandre Schmemann est le fameux adage patristique auquel il se réfère constamment, lex orandi, lex credendi. Pour lui, tout comme d'ailleurs pour Cyprien Kern, la théologie en général ne peut fonctionner sans la science liturgique. Schmemann compare la place de la théologie liturgique parmi les différentes disciplines théologiques à celle qu'occupe la théologie biblique. Tout comme la théologie biblique tend à mettre en relation le texte des Écritures et la dogmatique, de même, la théologie liturgique se doit d'étudier les données des textes liturgiques et leur utilisation par la théologie dogmatique. Schmemann sous-entend donc, tout comme Kern, un travail d'exégèse et d'herméneutique. La méthode de la théologie liturgique selon le père Alexandre Schmemann. Tout comme son maître, le père Alexandre estimait qu'en tant que discipline théologique indépendante, la théologie liturgique a besoin de sa propre méthode. Il considérait qu'un travail historico-critique était indispensable avant d'évaluer la tradition liturgique. Conscient du fait que la liturgie a connu une très longue et complexe évolution, il se demande dans son introduction à la théologie liturgique si tout ce qui a été véhiculé dans l'Église à travers la liturgie a valeur égale ou une même signification. Schmemann souligne donc, tout comme son maître, la nécessité d'une étude historique de la liturgie. Cependant, il souligne que l'étude de l'histoire de la liturgie ne doit pas être un but en soi, comme ce fut souvent le cas au XIXe siècle. Après une analyse historique, nous devons en venir à une synthèse théologique qu'il définit comme l'élucidation de la prière en tant que règle de foi et comme l'interprétation théologique de la règle de prière. Là se trouve, aux yeux du père Alexandre, le deuxième aspect de la théologie liturgique qu'il juge comme le plus important. Ainsi, si le rôle de l'étude de l'histoire de la liturgie est de montrer sa structure et son développement, le rôle de la théologie liturgique est d'en découvrir, d'en décoder ou décrypter le sens. Dans son introduction à la théologie liturgique, Schmemann propose un plan d'étude pour la théologie liturgique. Selon lui, elle devrait commencer par une introduction qui évaluerait de manière historico-critique l'ordre de l'Église, afin d'en dégager le sens théologique. En effet, il lui semble nécessaire d'étudier l'ordre en se demandant quel lien unit l'ordre d'aujourd'hui et l'ordre primitif. Quelle en est la norme d'origine? Quel en est le sens théologique? En quoi représente-t-il et exprime-t-il notre tradition liturgique? Contrairement à son maître, qui accorda davantage d'importance à l'hymnographie et à l'œcologie, Schmemann considère une telle étude historico-critique de l'ordre comme indispensable pour la théologie liturgique. Dans son introduction à la théologie liturgique, il a d'ailleurs esquissé quatre strates de son évolution. La première correspond à la période pré-constantinienne, avec l'origine des cycles quotidiens, hebdomadaires et annuels, l'origine de la pratique du jeûne et la prédominance de la psalmodie. La seconde, à l'ordre séculier ou cathédral, avec l'importance de la liturgie constantinopolitaine, le développement du chant, de la musique de la liturgique et des éléments dramatiques, ainsi que la multiplication des fêtes liturgiques. La troisième est constituée par l'ordre monastique et son influence sur l'évolution de la liturgie. Enfin, la quatrième représente la synthèse de l'ordre séculier et de l'ordre monastique, avec ce qu'il concevait comme le triomphe de la piété monastique et qu'il qualifia à juste titre de synthèse byzantine. Selon lui, le premier chapitre de la théologie liturgique devrait être consacré au sacrement du baptême et de la chrismation en tant qu'entrée dans l'Église, et suivi d'un deuxième chapitre sur l'Eucharistie et tout ce qui est en lien avec elle. Schmemann nous met ici en garde contre une approche scolastique qui tend à privatiser les sacrements par rapport à l'ensemble de la vie de l'Église ou à séparer un sacrement des autres sacrements. Sur ce point, il se réfère explicitement à son maître qui affirmait lui aussi que si l'Eucharistie est le sacrement de l'Église, une théologie qui n'aurait pas l'Eucharistie comme fondement, serait par définition défective. Schmemann nous met ici également en garde contre une tendance liée au renouveau eucharistique qui fait de l'Eucharistie non pas la source, le centre ou le sommet de la vie de l'Église, mais la réduire à son unique contenu en se focalisant sur elle, en oubliant les autres aspects de l'expérience liturgique de l'Église. Le plan d'étude de la théologie liturgique élaboré par le père Alexandre dans son introduction à la théologie liturgique se termine par un troisième chapitre sur la sanctification du temps, ayant essentiellement comme but l'étude de la prière des heures et les fêtes de l'année liturgique, et un quatrième chapitre sur la sanctification de la vie, ayant pour objet l'étude des sacrements tels que le mariage, la confession, l'onction des malades, etc. Les sources du père Alexandre Schmemann. Nous pouvons nous apercevoir combien la conception de la théologie liturgique et la méthode élaborée pour celle-ci par le père Alexandre Schmemann est dépendante de celle de son maître, le père Cyprien Kern. Cependant, le contexte du milieu du XXe siècle, dans lequel Schmemann commença à réfléchir sur cette notion, est différent de celui du début du XXe siècle, dans lequel écrit le Père Cyprien-Cœur. Si l'un s'est avéré être un pionnier dans le contexte de l'émigration, voulant introduire une vision théologique dans le domaine liturgique, que l'on aborda jusqu'alors davantage dans une perspective pratique et historique, l'autre a pu bénéficier en Occident non seulement des travaux de son maître, mais aussi de la recherche qui se faisait dans le cadre du mouvement liturgique des années 40, auquel il fait d'ailleurs explicitement référence, et aussi dans le cadre de la préparation de la réforme liturgique du Concile Vatican II. En plus de l'influence de son maître, on peut entrevoir, entre autres, dans sa perception de la dichotomie entre le sacré et le profane, qui sont, selon lui, devenus altérés, la liturgie de l'Église dès la fin du IVe siècle, une influence du père Nicolas Afanassiev, qui fut l'un des cofondateurs avec le père Cyprien-Cœur des semaines d'études liturgiques de Saint-Serge. Ce dernier fut, comme nous le savons, un pionnier au sein de la théologie orthodoxe de l'ecclésiologie eucharistique, et en ce sens insista beaucoup sur l'unité et la concélébration qui existent au sein de l'Assemblée liturgique et marqua beaucoup la vision que le père Alexandre Schmemann avait de l'unité intime existant entre l'Église en tant qu'événement et la célébration liturgique. Cette conviction lui avait été par ailleurs communiquée bien évidemment par son maître, au sujet duquel il écrit. Une seule chose est demeurée pour toujours, comme le principe de tous les principes, comme une forme décisive et éternelle de vie. L'amour pour l'office, l'expérience liturgique et la connaissance de l'Église comme une réelle, profonde et sincère eucharisticité. Je suis convaincu, pour avoir officié avec le père Cyprien devant le même autel pendant 5 ans, que la seule joie de sa vie se trouvait dans l'office, dans la célébration de l'Eucharistie, des profondeurs mystiques de la grande semaine, de Pâques et des fêtes de l'Église. Ce n'est donc pas un hasard si le maître et les disciples s'avèrent être les auteurs de 2 livres intitulés l'Eucharistie. Il faut être conscient, par ailleurs, que le concept de théologie liturgique n'était pas absent parmi les liturgistes catholiques romains, dont le père Alexandre Schmemann fréquenta les œuvres, sans doute, sous l'influence de son maître. Dans ce milieu, les pères Bot et Irénée ont contribué à honorer la dimension théologique de la liturgie. Mais lorsqu'il développe le concept de la liturgie en tant que sanctification, le père Alexandre Schmemann s'inspire plus particulièrement de l'œuvre de Dom Odon Caso, un éminent représentant du mouvement liturgique des années 40 et des bénédictins de Maria Lar, et qui fut à l'origine d'une théologie des mystères. À sa suite, Schmemann affirme que l'expérience et la compréhension du culte chrétien étaient à l'origine mystérologiques et regrette que lentement, au fil des siècles, l'expérience de l'Église en tant qu'assemblée liturgique se soit transformée en une vision individualiste de la sanctification des fidèles par le clergé, ce qui contribua à aggraver le clivage entre le sacré et le profane. Dans son analyse des origines juives de la liturgie chrétienne et de son année liturgique, et plus particulièrement de l'Eucharistie, Schmemann est redevable aux recherches de Gregory Dix et de Louis Bouillet, qui l'influence également dans sa vision de centralité, le mystère pascal dans la liturgie chrétienne, ainsi que du lien intime qui unit la Bible et la liturgie. D'ailleurs, cette notion de centralité du mystère pascal dans toute la liturgie chrétienne et le lien du baptême avec la célébration pascale n'a pas seulement été développée par le père Alexandre, mais s'avère être au centre de la réforme liturgique de Vatican II, élaborée à cette même époque. Par ailleurs, le concept de sanctification du temps, ou de liturgie du temps, qu'il a développé en insistant sur la dimension eschatologique de la liturgie en tant que manifestation du royaume de Dieu, dépend en partie des études de Oscar Kuhlmann. Schmemann fut par ailleurs l'un des premiers liturgistes à parler de l'historicisation de l'office, entendant par là le changement qu'a connu le culte chrétien à partir du IVe siècle en devenant davantage historique qu'eschatologique et acquérant de plus en plus une interprétation symbolique. Il dépend sur ce point de Gregory Dix, de Bernard Bott et plus généralement des études de Cabrol sur les origines liturgiques. D'autre part, il est également redevable aux études de Jean Danielou sur l'importance du jour du dimanche, ce huitième jour de la semaine. Il faut rappeler que la redécouverte de l'importance du dimanche et de sa centralité dans le cycle liturgique hebdomadaire est l'un des acquis dans l'Église catholique romaine de la réforme liturgique de Vatican II. Conclusion. Héritier de la grande école liturgique russe du XIXe siècle, les pères Cyprien Kern et Alexandre Schmemann ne furent pas seulement liés par des liens de paternité spirituelle, mais aussi par une relation de maître à disciple. Cela apparaît nettement dans le concept de théologie liturgique qu'ils ont forgé au XXe siècle. De l'école historique et de la méthode historico-critique, ils ont retenu la nécessité d'étudier l'histoire de la liturgie, qui s'avère indispensable pour une herméneutique exacte de la tradition liturgique. Mais la connaissance de l'histoire de la liturgie n'est pas un but en soi. Elle doit aider à mettre en valeur la théologie que véhiculent les textes liturgiques et l'expérience du mystère du salut vécu par l'Église dans la célébration de sa liturgie. Que l'on parle, comme le père Cyprien Kern, d'une présentation systématique du dogme contenu dans l'œcologie et l'hymnographie, et que l'on veuille montrer à la suite du père Alexandre Schmemann le lien qui existe entre l'Église, corps mystique du Christ, et la célébration liturgique, la théologie liturgique nous rappelle sans cesse que la liturgie fut toujours une des sources principales de la théologie byzantine et qu'elle ne peut être réduite à une discipline ni à une méthode, mais qu'elle devait devenir un mode de pensée. C'est ce que le père Cyprien Kern a transmis à son disciple le père Alexandre Schmemann. C'est l'héritage qu'il nous a transmis à son tour.